Charles Dickens, Barnabé Rudge. Traduction de Monsieur Bonhomme. Chapitre 7. Madame Varden était une dame de cette humeur qu'on appelle communément incertaine. Ce qui signifie, quand on veut tirer les choses au clair, une humeur au contraire trop certaine d'incommoder plus ou moins tout le monde. Ainsi, il arrivait en général que quand les autres étaient gais, Madame Varden était triste. Et que quand les autres étaient tristes, Madame Varden était disposée à être d'une gaieté surprenante. Véritablement, la digne ménagère était d'une nature si capricieuse que non seulement elle s'élevait au-dessus du génie de Macbeth par son aptitude à montrer en un tour de main sagesse et stupéfaction, modération et fureur, loyauté et indifférence, mais encore sa voix changeait de gamme, montait et descendait dans tous les tons et tous les modes possibles en moins d'un petit quart d'heure. En un mot, elle savait manœuvrer le triple carillon et jouer à toute volée des instruments éclatants du clocher féminin, avec une adresse et une rapidité d'exécution qui étonnaient tous les auditeurs. Une observation faite sur cette bonne dame, qui ne manquait pas de charme en sa personne, car on la trouvait potelée et de même appétissante, quoique, comme sa charmante fille, un peu courte de taille, c'était que son humeur incertaine se fortifiait et s'augmentait en raison de sa prospérité temporelle. Et il ne manquait pas de gens très sensés, ma foi, hommes et femmes, en liaison d'amitié avec le serrurier et sa famille, qui allaient jusqu'à dire qu'une culbute d'une demi-douzaine de tours sur l'échelle du monde, telle que la banqueroute d'une banque où son mari plaçait son argent ou quelque autre accident de ce genre, la rendrait, et sans faute, une des dames du plus agréable commerce ici-bas. Je n'ai pas à m'expliquer sur cette conjecture bien ou mal fondée, toujours est-il que les esprits comme les corps tombent souvent dans un état fâcheux où ils se couvrent de pustules par pur excès de bien-être et comme eux se guérissent souvent avec des remèdes nauséabonds d'un goût affreux au palais. Le principal auxiliaire et l'âme damnée de Madame Varden, mais en même temps la principale victime de ses colères, était son unique servante, une demoiselle Mix, ou comme on l'appelait conformément à ses préjugés sociaux, qui élague et étête chez les pauvres filles de service tout ce luxe de politesse, Miggs. Cette Miggs était une grande jeune demoiselle, très adonnée au soc dans la vie privée, mince et acariâtre, qui aurait pu être mieux faite, et sans avoir absolument une mauvaise physionomie, d'un visage acide comme du vinaigre. En principe général et comme pure abstraction, Miggs soutenait que le sexe mâle était extrêmement méprisable et indigne d'attention, qu'il était volage, faux, bas, fat, enclin aux parjures et totalement dénué de mérite. Lorsqu'elle était exaspérée contre les hommes d'une façon particulière, ce qui arrivait au dire des médisants dans les moments où elle avait le plus à se plaindre des mépris de Sim Tappertit, elle avait coutume de souhaiter avec une grande énergie que toutes les femmes vinssent à mourir un beau jour pour apprendre aux hommes à mieux connaître la valeur de ces créatures célestes auxquelles ils attachent si peu de prix. Oui, dans le transport de son patriotisme féminin, elle allait jusqu'à déclarer quelquefois que, si on pouvait lui garantir un bon nombre, un chiffre rond de 10 000 jeunes vierges par exemple, prêtes à l'imiter, elle n'hésiterait pas pour faire dépit au sexe masculin, à se pendre, à se noyer, à se poignarder, à s'empoisonner elle-même, avec une joie indicible. Ce fut la voix de Miggs qui salua le serrurier quand il frappa à la porte de sa maison d'un cri perçant de « Qui est là ?»«
C'est moi, ma fille, c'est moi, » répondit Gabriel.
« Quoi ? Déjà, monsieur ?» dit Miggs, ouvrant la porte d'un air de surprise. « Nous mettions justement notre bonnet de nuit pour veiller, moi et ma maîtresse. Oh, elle a été si mal !» Miggs dit cela d'un air de candeur et de sollicitude peu commun, mais la porte de la salle à manger était toute grande ouverte, et Gabriel, sachant parfaitement pour qui c'était dit, lui jeta en passant un regard qui n'était rien moins que satisfait.
« C'est monsieur qui rentre, ma'am !» cria Miggs, courant devant lui dans la salle à manger. « C'est vous qui aviez tort, ma'am, et c'est moi qui avais raison. Je pensais bien qu'il ne nous ferait pas veiller si tard deux nuits de suite. Ce n'est pas monsieur qui ferait ça !»
« J'en suis contente, maman, à cause de vous. Je suis un peu,
Ici Mix pleurnicha, un peu tourmenté par le sommeil moi-même. Je l'avoue maintenant, ma'am, quoique je n'ai pas voulu en convenir quand vous me l'avez demandé, mais ça ne fait rien, ma'am, naturellement.
Vous auriez mieux fait, dit le serrurier, qui aurait bien voulu que le corbeau de Barnabé fût là pour mordre Mix à la cheville. Vous auriez mieux fait alors d'aller vous coucher tout de suite.
Je vous remercie, monsieur, de tout mon cœur, répliqua Mix. Je n'aurais pu reposer en paix, ni fixer mes pensées sur mes prières, sans la certitude que madame était confortablement dans son lit. Et franchement, il y a déjà bien des heures qu'elle devrait y être.
Vous jasez beaucoup, mademoiselle, dit Varden en ôtant son pardessus et la regardant de travers.
Je vous comprends, monsieur, cria Mix, la rougeur au front, et je vous remercie de tout mon cœur. J'oserais dire que si je vous offense par mes égards pour ma maîtresse, je ne vous en dois point d'excuse, trop heureuse de m'attirer ainsi des tribulations et des peines.
Ici, madame Varden, qui, la tête ensevelie dans un grand bonnet de nuit, avait été pendant tout ce temps absorbée par le manuel protestant, regarda autour d'elle, et pour reconnaître les exploits de Mix, son champion, lui commanda de se taire. Chacun des petits os que Mix pouvait avoir au cou et à la gorge se développa avec une plénitude de dépit tout à fait alarmante, et elle répliqua « Oui, ma'am, je me tairai. »
« Comment vous trouvez-vous maintenant, ma chère amie ?» dit le serrurier en s'asseyant près de sa femme qui avait repris son livre et se frottant rudement les genoux pendant qu'il faisait cette question.
« Vous êtes bien en peine de le savoir, n'est-ce pas ?» répondit madame Varden, ses yeux sur le texte.
« Vous qui n'avez pas été auprès de moi de toute la journée et qui m'abandonneriez bien tout de même quand je serais à l'article de la mort. »«
Ma chère Marthe, » dit Gabriel, « madame Varden tourna la page, puis elle revint à la dernière ligne de la page précédente pour s'assurer parfaitement des derniers mots. » Puis elle continua de lire de l'air d'une personne qui étudie avec un profond intérêt.
« Ma chère Marthe, dit le serrurier, comment pouvez-vous dire pareille chose quand vous savez bien que vous ne les pensez pas, quand vous seriez à l'article de la mort? Mais si vous aviez la moindre indisposition un peu sérieuse, est-ce que je ne serais pas continuellement auprès de vous ?»«
Oui, cria madame Varden fondant en larmes, oui, vous y seriez. » « Je n'en doute pas, Varden. Certainement, vous y seriez. Autant me dire tout de suite que vous planeriez autour de moi comme un vautour, attendant que j'eusse rendu l'âme pour pouvoir aller en épouser une autre. »
Mix, par sympathie, fit entendre un gémissement, un petit gémissement court, réprimé dès sa naissance et changé en une quinte de toux. La servante semblait dire «
Je n'en peux, mais ça m'est arraché par l'affreuse brutalité de ce monstre de maître. « Mais vous me briserez le cœur un de ces jours, » ajouta madame Varden avec plus de résignation, « et alors nous serons heureux, tous les deux. Mon seul désir est de voir Dolly bien établie, et quand elle le sera, vous pourrez m'établir, moi, aussitôt que vous voudrez. »«
Ah !» cria Mix, et elle toussa de nouveau.
Le pauvre Gabriel tortilla sa perruque en silence pendant quelque temps, et alors il dit avec douceur « Est-ce que Dolly est allée se coucher ?»«
Votre maître vous parle, » dit madame Varden, regardant sévèrement par-dessus son épaule Mix qui attendait ses ordres.
« Non, ma chère amie, c'est à vous que je parle, » répliqua le serrurier, toujours avec douceur.
« Ne m'entendez-vous pas, Mix ?» cria la dame opiniâtre en frappant du pied le plancher. « Voilà que vous commencez vous aussi, n'est-ce pas, à ne tenir aucun compte de moi maintenant, mais on vous en donne l'exemple. »
À ce cruel reproche, Mix, dont les larmes étaient toujours prêtes à grande ou petite dose, selon les cas, dans le plus bref délai et sans s'inquiéter des motifs, se mit à pleurer violemment en tenant ses deux mains serrées pendant ce temps-là sur son cœur, comme si cette précaution pouvait seule l'empêcher de se rompre en mille morceaux. Madame Varden, qui possédait la même faculté à un haut degré de perfection, pleura à l'unisson, même à foi. Mix ne tarda pas à être débordée, et céda la première, et, sauf un soupir qui semblait, dans l'occasion, trahir quelque arrière-pensée de vouloir éclater de rechef, elle laissa sa maîtresse en possession du champ de bataille. Sa supériorité bien constatée, cette dame mit également un prompt terme à ses pleurs et tomba dans une paisible mélancolie. Le soulagement était si grand et la fatigue des incidents de la veille était si accablante pour le serrurier qu'il pencha sa tête sur sa chaise et eut dormi là toute la nuit si la voix de madame Varden, après une pause de quelques 5 minutes, ne l'avait éveillé en sursaut.
S'il m'arrive, dit Madame Varden, non plus d'une voix querelleuse, mais de l'accent d'une monotone remontrance, d'être de bonne humeur, s'il m'arrive d'être gai, s'il m'arrive d'être plus qu'à l'ordinaire disposé au plaisir de la conversation, voilà comment on me traite.
De bonne humeur comme vous étiez, ma'am, il n'y a qu'une demi-heure, cria Mix. Je n'ai jamais vu si agréable compagnie.
Parce que, dit Madame Varden, parce que jamais je ne me mêle de quoi que ce soit, jamais je n'interromps, parce que jamais je ne demande pourquoi l'on va, pourquoi l'on vient, parce que tout mon esprit et toute mon âme se sont appliqués qu'à faire les économies que je peux faire dans mon ménage et à travailler dans l'intérêt de cette maison. Voilà les épreuves qu'on me destine pour récompense.
Marthe, dit vivement le serrurier, qui tâchait d'avoir l'air aussi réveillé que possible, de quoi vous plaignez-vous? Je suis réellement venu chez nous avec le plus vif désir d'être heureux, oui, c'est la pure vérité.
De quoi je me plains, rétorqua sa femme. Y a-t-il rien de plus glacial que de voir un mari boudé et s'endormir aussitôt après son retour à la maison, que de le voir vous éteindre toute chaleur au cœur et jeter de l'eau froide sur le foyer domestique? N'est-ce pas naturel, quand je sais qu'il était sorti pour une affaire à laquelle je m'intéresse autant que personne au monde, que je souhaite savoir ce qui s'est passé ou qu'il se croit obligé de me le dire sans que je lui demande les mains jointes? Est-ce naturel, oui ou non?
Je suis très fâché, Marthe, de n'avoir pas su cela plus tôt, dit l'excellent serrurier. Je craignais vraiment que vous ne fussiez pas disposé à une conversation divertissante. Je vous dirai tout ce que vous voudrez, je serai trop heureux de vous le dire, ma chère amie.
« Non, Varden, répliqua sa femme en se levant avec dignité. Non, je vous remercie. Je ne suis pas un enfant qu'on corrige pour le caresser une minute après. Je suis trop âgé pour cela, Varden. Miggs, prenez la lumière. Vous, du moins, Miggs, vous pouvez être gai. Vous êtes bien heureuse. »
Miggs, qui jusqu'à ce moment avait été dans les abîmes de la compassion la plus désespérée, passa instantanément à toute l'allégresse imaginable, en secouant la tête tandis qu'elle lançait un coup d'œil au serrurier. Elle emporta à la fois sa maîtresse et la chandelle.
« Et donc croirait, pensa Varden en haussant les épaules et rapprochant du feu sa chaise, que cette femme pût jamais être enjouée et agréable. Et cependant, c'est la vérité. Allons, c'est bon, nous avons tous nos défauts, je ne veux pas insister sur les siens. » Il y a trop longtemps que nous sommes mari et femme pour cela. »
Il s'assoupit de nouveau et de bon cœur, grâce à son heureux caractère bon et cordial. Lorsqu'il eut fermé les yeux, la porte conduisant aux étages supérieurs s'ouvrit et il en sortit une tête qui, en le voyant, se rejeta en arrière avec précipitation. « Je voudrais bien, » murmura Gabriel, s'éveillant au bruit et regardant autour de la salle, « je voudrais bien que quelqu'un épousât Miggs, mais c'est impossible. Je serais fort étonné qu'il y eût un fou assez fou dans ce monde pour épouser Miggs. » C'était là un si vaste sujet de réflexion que notre homme s'assoupit encore une fois et dormit jusqu'à ce que le feu fût entièrement consumé. Enfin, il se réveilla de lui-même et, après avoir fermé à double tour la porte de la rue, selon l'usage, et mis la clé dans sa poche, il alla se coucher. La salle n'était dans l'obscurité que depuis quelques minutes, lorsque la tête apparut encore et que Sim Tappertit entra, portant à la main une petite lampe. « Que diable a-t-il donc eu à faire pour me boucher le passage si tard ?» marmotta Sim en passant dans l'atelier et mettant sa lampe sur la forge. « Voilà déjà la moitié de la nuit écoulée. Chien de métier, de rouille et de ferraille, je n'y ai jamais gagné sur mon âme que cette pièce de clincaillerie. » Parlant ainsi, il tira du côté droit, ou plutôt du gousset de la jambe droite de sa culotte, une grande clé grossièrement fabriquée. Il l'introduisit avec précaution dans la serrure fermée par son maître et il ouvrit la porte doucement. Cela fait, il remit dans sa poche son chef-d'œuvre clandestin, puis, laissant la lampe allumée et fermant la porte avec soin et sans bruit, il se glissa dans la rue. Aussi peu soupçonné du serrurier dormant d'un profond sommeil, que de Barnabé lui-même, en proie aux fantômes de ses rêves.
Chapitre 8.
Lorsqu'il fut hors de la maison du serrurier, Sim Tappertit mit de côté ses manières circonspectes et prenant en leur place des airs de tapageurs, de fanfarons, de batteurs d'estrade qui n'hésiteraient pas à tuer un homme et à le manger tout cru au besoin, il chemina de son mieux le long des rues obscures. Faisant de temps à autre une demi-pause pour taper sur sa poche afin de s'assurer qu'il avait bien son passe-partout, il marcha en toute hâte vers Barbicane et, tournant dans l'une des plus étroites des étroites rues qui divergeaient de ce point central, il ralentit son pas et il essuya son front en sueur, comme s'il était prêt d'atteindre le terme de sa course. Le lieu n'était pas d'un très bon choix pour une promenade nocturne, car il jouissait véritablement d'une renommée plus qu'équivoque et n'avait pas une apparence des plus engageantes. De la rue principale, ou plutôt de la ruelle où il était entré, une allée basse conduisait dans une cour borgne, profondément noire, non pavée et exhalant des odeurs stagnantes. Ce fut sur ce terrain de mauvaise mine que l'apprenti fugitif du serrurier chercha sa route à tâtons et que, s'arrêtant devant une maison dont la façade sale et pourrie portait le grossier simulacre d'une bouteille suspendue pour enseigne comme quelque malfaiteur à la potence, il frappa trois fois de son pied une grille en fer. Après avoir attendu en vain quelques réponses à son signal, M. Tappertit s'impatienta et frappa la grille trois fois encore, puis un nouveau délai, mais cette fois il ne fut pas de longue durée, le sol parut s'ouvrir à ses pieds et une tête raboteuse apparut. « Est-ce le capitaine ?» dit une voix aussi raboteuse que la tête. « Oui, » répondit M. Tappertit avec hauteur, en même temps qu'il descendait, « qui donc pourrait-ce être ?»« Il est si tard que nous ne comptions plus sur vous, » répliqua la voix, pendant que l'orateur s'arrêtait pour fermer la grille et l'attacher. « Vous venez tard, monsieur ?»« Marchez, » dit M. Tappertit avec une sombre majesté, « et pas d'observation avant que je vous y autorise. En avant, marche !» Ce dernier mot de commandement était peut-être quelque peu théâtral et superflu, d'autant plus qu'on descendait par un escalier très étroit, roide et glissant, et que la moindre précipitation, le moindre écart de la trace battue, devait aboutir à un tonneau d'eau tout béant. Mais M. Tappertit, qui, à l'exemple d'autres grands commandants, aimait les grands effets et le déploiement de la dignité personnelle, cria de rechef « En avant, marche !» de la voix la plus rauque qu'il put trouver dans ses poumons. Puis il descendit le premier, les bras croisés et les sourcils froncés, jusqu'au bas des degrés de la cave, où il y avait une petite chaudière en cuivre fixée dans un coin, une chaise ou deux, un banc et une table, un feu qui ne brillait pas beaucoup, et un lit à roulettes, couvert d'une espèce de bure rapiécée et déguenillée. « Salut, noble capitaine !» cria un maigre personnage en se levant comme s'il se réveillait. Le capitaine fit un signe de tête, puis, ôtant son pardessus, il se tint debout en composant son attitude et, dans tout l'éclat de sa dignité, il lança son œillade à son acolyte. « Quelle nouvelle ce soir ? » demanda-t-il en le regardant jusqu'au fin fond de l'âme. « Rien de particulier, » répondit l'autre en s'étendant, et il était si long déjà que c'était chose tout à fait alarmante que de le voir s'étendre ainsi. « Pourquoi donc venez-vous si tard ?»« Peu vous importe, » fut la seule réponse que daignait à faire le capitaine. « La salle est-elle préparée ?»« Elle est, » répliqua son acolyte. « Le camarade est-il ici ?»« Oui, mais les autres en petit nombre. Vous les entendez ?»« Ils jouent aux quilles, » dit le capitaine avec humeur. « Des têtes légères, des hommes de plaisir. » On ne pouvait avoir de doute sur l'amusement spécial auquel se livraient ces esprits inférieurs, car même dans l'atmosphère renfermée et étouffée de la cave, le bruit retentissait comme un tonnerre lointain. Certes, à première vue, le choix d'un pareil lieu pour un pareil délassement pouvait paraître singulier si les autres caves ressemblaient à celles où avait lieu ce colloque, car le sol était de la terre cuite, le mur et la voûte de simples briques tapissés de limaçons et de limaces, l'air était écœurant, corrompu et malsain. On aurait cru, d'après un fumet prononcé qui dominait entre les diverses odeurs de l'endroit, qu'on s'en était servi à une époque peu reculée comme d'un magasin à fromage,
circonstance explicative de l'humidité graisseuse répandue de toutes parts, en même temps qu'elle faisait naître dans l'esprit l'agréable idée des rats, amateurs de fromage. La localité en outre était naturellement humide et l'envoyait de petits champignons surgir de chaque coin vermoulu. Le propriétaire de cette charmante retraite, auquel appartenait également la tête raboteuse mentionnée ci-dessus, car il portait une vieille perruque à nœuds aussi nue et aussi sale qu'un balai usé, les avait rejoints pendant ce temps-là et il se tenait un peu à l'écart, se frottant les mains, remuant son menton hérissé de soie de porc toute blanche et souriant en silence. Ses yeux étaient fermés, mais eussent-ils été ouverts, on aurait facilement pu dire, d'après l'attentive expression de sa figure tournée vers eux, figure pâle et dépourvue de santé, comme on devait s'y attendre chez un homme voué à cette existence souterraine, comme aussi d'après un certain tremblement inquiet de ses paupières retroussées, qu'il était aveugle. Stagg lui-même s'est endormi, dit le long camarade, en indiquant d'un signe de tête ce personnage. « Solidement, capitaine, solidement !» cria l'aveugle. « Que veut boire mon noble capitaine ? Eau de vie, rhum, scubac ? Est-ce de la poudre trempée ou de l'huile brûlante ? Nommez quelque chose, cœur de chêne, et nous vous le procurerons quand ce serait du vin des caves de l'évêque ou de l'or fondu de la monnaie du roi Georges. » « Eh bien, dit M. Tapertit d'une façon hautaine, « quelque chose, et que ce soit vite servi, et pendant que vous y êtes, vous pouvez m'apporter ça, si vous le voulez, des caves du diable. »« Bravement parlé, noble capitaine, répliqua l'aveugle, c'est parler comme la gloire des apprentis. Ah, des caves du diable, fameuse plaisanterie. Le capitaine aime à rire. Je n'ai qu'un mot à vous dire, mon beau garçon, dit M. Tapertit en lançant une œillade à l'hôte, pendant que ce dernier se dirigea vers un placard d'où il tira une bouteille et un verre aussi négligemment que s'il avait eu la pleine jouissance de sa vue, c'est que si vous faites ce vacarme, vous apprendrez que le capitaine n'aime pas toujours à rire. Vous m'entendrez ? Il a les yeux sur moi, cria Stagg, s'arrêtant tout court au moment où il revenait et affectant de couvrir sa figure avec la bouteille. « Je les sens, quoique je ne puisse pas les voir. Ôtez-les, noble capitaine, détournez-les, car ils me percent jusqu'à l'âme comme des vrilles. » M. Tapertit sourit affreusement à son camarade et, dirigeant sur lui un autre regard en coulisses, une espèce de vie oculaire sous l'influence de laquelle l'aveugle feignit d'éprouver une grande angoisse, une vraie torture, il lui commanda d'un ton radouci d'approcher et de se taire. « Je vous obéis, capitaine, cria Stagg, en s'approchant et en versant à son chef une rasade, sans répandre une goutte, par la raison qu'il tint son petit doigt au bord du verre et qu'il s'arrêta dès que la liqueur l'eut touché. « Buvez, noble commandant. Mort à tous les maîtres, vive tous les apprentis et amour à toutes les belles demoiselles. Buvez, brave général, et réchauffez votre cœur intrépide. » Tapertit daigna prendre le verre de la main de l'aveugle. Stagg alors mit un genou à terre et frotta doucement les mollets de son chef avec un air d'humble admiration. « Que n'ai-je des yeux, cria-t-il, pour voir les proportions symétriques de mon capitaine ? Que n'ai-je des yeux pour contempler ces deux jumeaux, fatales à la paix des ménages ?»« Laissez-moi, dit M. Tapertit en abaissant son regard sur ses membres favoris. « Voulez-vous me laisser, Stagg ?» « Quand je touche les miens après, cria l'hôte, les tapant d'un air de reproche, ils me sont odieux, comparativement parlant. Ils n'ont pas plus de forme que des jambes de bois à côté des jambes moulées de mon noble capitaine. »« Les vôtres, s'écria M. Tapertit. Oh, je crois bien, n'allez-vous pas comparer ces vieux cure-dents-là avec mes propres membres. C'est presque un manque de respect. Allons, prenez ce verre. Benjamin, ouvrez la marche à l'ouvrage. » En disant ces mots, il recroisa ses bras et, fronçant les sourcils avec une sombre majesté, il suivit son compagnon à travers une petite porte vers l'extrémité supérieure de la cave et disparut, laissant Stagg à ses méditations personnelles. La cave dans laquelle ils entrèrent, jonchée de sciures de bois et faiblement éclairée, séparait la première de celle où s'amusaient les joueurs de quilles, comme l'indiquait le bruit croissant et la clameur des langues. Ce bruit cessa soudain toutefois et fut remplacé par un profond silence au signal du long camarade. Alors ce jeune monsieur, allant vers une petite armoire, en rapporta un fémur qui, dans les siècles passés, avait dû faire partie intégrante de quelque individu au moins aussi long que lui, et il déposa cet os dans les mains de M. Tappertit. Celui-ci, le recevant comme un sceptre ou un bâton de maréchal, prit une mine farouche, en relevant sur le haut de sa tête son chapeau à trois cornes, et monta sur une grande table où un fauteuil d'apparat, joyeusement orné d'une couple de crânes, était tout prêt à le recevoir. Il ne faisait que de s'installer quand parut un autre jeune monsieur portant entre ses bras un gros livre fermé avec une agrafe. Ce personnage adressa au président une profonde révérence, remit le livre au long camarade, s'approcha de la table, tourna le dos et, se pliant en deux, se tint là, dans la posture d'Atlas. Alors, le long camarade monta aussi sur la table et, s'asseyant dans un fauteuil moins haut que celui de M. Tappertit, avec beaucoup de solennité et de cérémonie, plaça le gros livre sur les épaules de leur compagnon muet, aussi tranquillement que si c'eût été un pupitre de bois, et se prépara à y faire des inscriptions avec une plume de taille analogue. Lorsque le long camarade eut fini ses préparatifs, il regarda M. Tappertit. Et M. Tappertit, faisant le moulinet avec l'os en question, frappa 9 fois sur l'un des crânes. Au 9e coup, un 3e jeune monsieur entra par la porte menant au quartier des Quilles, et après un profond salut, il attendit les ordres du chef. « Apprenti, dit le puissant capitaine, qui attend là-bas ? » L'apprenti répondit qu'un étranger attendait pour solliciter son admission dans la société secrète des chevaliers apprentis et une libre participation à leurs droits, privilèges et immunités. Là-dessus, M. Tappertit fit de nouveau le moulinet avec le tibia de la présidence et, donnant au second crâne un coup prodigieux sur le nez, il s'écria « Qu'on l'introduise !» À ces terribles paroles, l'apprenti salua encore et se retira comme il était entré. Bientôt apparurent à la même porte 2 autres apprentis, ayant entre eux un 3e, dont les yeux étaient bandés. Il avait une perruque à bourse, un habit à large pan, avec une garniture de galons ternis. Il était en outre ceint d'une épée, conformément au statut de l'ordre qui réglait l'introduction des récipiendaires et qui leur enjoignait de revêtir ce costume de cour et de le garder constamment dans de la lavande pour s'en servir au besoin. L'un des parrains du récipiendaire tenait pointé à son oreille une espingole rouillée et l'autre un très vieux sabre avec lequel, tout en s'avançant, il découpait en l'air d'imaginaires ennemis d'une façon sanguinaire et anatomique. Comme ce groupe silencieux approchait, M. Tappertit enfonça son chapeau sur sa tête, le récipiendaire mit alors sa main sur sa poitrine et s'inclina devant lui. Quand il se fut suffisamment humilié, le capitaine ordonna de lui ôter le bandeau et lui fit subir l'épreuve de l'œillard. « Ah !» dit le capitaine d'un air pensif à la suite de l'épreuve, « continuez !» Le long camarade lut tout haut ce qui suit. « Marc Gilbert, âge 19 ans, engagé avec Thomas Curzon, bonnetier à la Toison d'Or, Aldgate. Aime la fille de Curzon, ne peut pas dire si la fille de Curzon l'aime, serait disposée à le croire. Curzon lui a tiré les oreilles le mardi de la semaine dernière. « Comment donc ? » cria le capitaine, qui tressaillit. « Pour avoir regardé sa fille, sauf votre respect, » dit le récipiendaire. « Écrivez, Curzon dénoncé, » dit le capitaine. « Mettez une croix noire devant le nom de Curzon. »« Sauf votre respect, » dit le récipiendaire, « ce n'est pas ce qu'il y a de pire. Il appelle son apprenti chien de paresseux et lui supprime sa bière s'il ne travaille pas à son idée. En outre, il lui donne à manger du fromage de Hollande, pendant qu'il mange lui-même du Chester, monsieur, et ne le laisse sortir le dimanche qu'une fois par mois. « Ceci, dit gravement M. Tappertit, est un flagrant délit. Mettez 2 croix noires au nom de Curzon. » Si la société, dit le récipiendaire, qui était un gros lourdeau de mauvaise mine, avec la taille tournée et des yeux renfoncés très voisins l'un de l'autre, si la société voulait réduire sa maison en cendres car il n'est pas assuré, ou lui donner une raclée le soir quand il revient de son club, ou m'aider à enlever sa fille et à l'épouser dans l'église de Flûte, bon gré, mal gré, Monsieur Tappertit agita son terrible bâton de commandement comme pour l'avertir de ne pas interrompre et il ordonna de mettre 3 croix noires au nom de Curzon. « Ce qui signifie, dit-il en manière de gracieuse explication, vengeance complète et terrible. Apprenti, aimez-vous la Constitution ?» À cela, le récipiendaire, se conformant aux instructions des parrains qui l'assistaient, répliqua « Oui, l'Église, l'État et toute chose établie, excepté les maîtres, dit le capitaine. » « Oui, dit encore le récipiendaire. » Après quoi, il écouta d'un air docile le capitaine qui, dans un discours préparé pour des circonstances semblables, lui narra comme quoi, sous cette même constitution, qui était gardée dans un coffre-fort quelque part, mais il ne pouvait dire où, les apprentis avaient, au temps passé, eu de droit des vacances fréquentes, qu'ils avaient cassé la tête aux gens par centaines, bravé leur maître, ouida, et même consommé quelques glorieux meurtres dans les rues, privilèges qu'on leur avait successivement arrachés en restreignant leurs nobles aspirations, comme quoi les gênes dégradantes qu'on leur avait imposées étaient incontestablement imputables à l'esprit novateur de l'époque et comme quoi ils s'étaient associés en conséquence pour résister à tout changement autre que ceux qui restaureraient les bonnes vieilles coutumes anglaises sous lesquelles ils voulaient vivre ou mourir. Après avoir mis en lumière ce qu'il y a de sagesse, à savoir marcher à reculons, témoin l'écrevisse et cet ingénieux poisson, le crabe, témoin aussi la pratique constante de l'âne et du mulet, il décrivit leurs buts principaux qui étaient, en deux mots, vengeance contre leurs tyrans de maître, dont la cruelle et insupportable oppression ne pouvait pas laisser à un apprenti l'ombre d'un doute, et restauration de leurs anciens droits, y compris les vacances. Il n'était pas présentement tout à fait mûr pour cette double mission, la société n'ayant en tout et pour tout qu'une force brute de 20 hommes, mais ils s'engageaient à atteindre leur but par le fer et le feu quand besoin serait. Puis il fit connaître le serment que prêtait chaque membre du petit reste d'un noble corps, serment d'un genre terrible et saisissant, qui l'obligeait, sur l'ordre de ses chefs, à résister et faire obstacle au Lord Maire, porte-glaive et chapelain, à mépriser l'autorité des shérifs, à regarder le tribunal des échevins comme zéro, mais sous aucun prétexte, dans le cas où le progrès des temps amènerait une insurrection générale des apprentis, on ne devait endommager ni défigurer en rien Temple Bar, le palladium de la Constitution, dont on ne devait approcher qu'avec respect. Ayant traité ces différents points avec une éloquence véhémente et informé en outre le récipiendaire que la société avait pris naissance dans son fécond cerveau, stimulé par un sentiment de haine contre l'injustice et l'outrage, sentiment toujours croissant dans son âme, M. Tappertit lui demanda s'il se croyait le cœur assez ferme pour prêter le formidable serment requis par les statuts ou s'il préférait se retirer pendant que la retraite était encore possible. Le récipiendaire répondit à cela qu'il prêterait le serment dût-il en étouffer. La prestation du serment eut donc lieu. Elle offrit maintes circonstances très propres à impressionner l'esprit le plus héroïque. L'illumination des 2 crânes au moyen d'un bout de chandelle à l'intérieur de chacun d'eux et force moulinée exécutée avec l'os vengeur en furent les traits les plus remarquables, pour ne pas mentionner divers exercices sérieux avec l'espingole et le sabre et quelques lugubres gémissements que firent entendre hors de la salle des apprentis invisibles. Toutes ces sombres et effroyables cérémonies ayant eu leur accomplissement, la table fut mise de côté, ainsi que le fauteuil d'apparat, le sceptre fut mis sous clé dans son armoire ordinaire, les portes de communication entre les 3 caves furent toutes grandes ouvertes, et les chevaliers apprentis se livrèrent au plaisir. Mais M. Tappertit, qui avait une âme au-dessus de ce vil troupeau, le vulgaire, et qui, à cause de sa grandeur, ne pouvait condescendre à se donner du plaisir que de temps en temps, se jeta sur un banc de l'air d'un homme accablé sous le poids de sa dignité. Il regarda les cartes et les dés d'un œil aussi indifférent que les quilles. Il ne pensait qu'à la fille du serrurier, et aux jours de turpitude et de décadence où il avait le malheur de vivre. « Mon noble capitaine, ne joue pas, ne chante pas, ne danse pas, » dit l'hôte en s'asseyant auprès de lui. « Buvez alors, brave général !»
Monsieur Tappertit vida jusqu'à la lie le calice qui lui était présenté, puis il plongea ses mains dans ses poches et avec un visage nuageux, il se promena au travers des quilles, tandis que ses acolytes, telle est l'influence d'un génie supérieur, retenaient l'ardente boule, témoignant pour ses petits tibias le respect le plus profond. Si j'étais né corsaire ou pirate, brigand, gentilhomme de grand route ou patriote, car tout cela se ressemble, pensa M. Tappertit en rêvant au milieu des quilles, à la bonne heure, mais traîner une ignoble existence et rester inconnu à l'humanité en général. Patience, je saurai devenir fameux. Une voix là-dedans ne cesse de me chuchoter ma future grandeur. J'éclaterai un de ces jours, et alors, qui pourra me retenir? À cette idée, je sens mon âme monter dans ma tête. Buvons, versez encore. Le nouveau membre, poursuivit M. Tappertit, non pas précisément d'une voix de tonnerre, car son organe, à dire vrai, était un peu fêlé et perçant, mais d'une voix très propre à faire impression néanmoins, où est-il? Ici, noble capitaine, cria Stagg, il y a près de moi quelqu'un que je sens être un étranger. Avez-vous, dit M. Tappertit, en laissant tomber son regard sur la personne indiquée, et c'était effectivement le nouveau chevalier qui avait à présent repris son costume de ville, avez-vous l'empreinte en cire de la clé de la porte qui mène de chez vous à la porte de la rue? Le long camarade prévint la réponse en produisant cette empreinte qu'il enleva d'une planche où elle avait été déposée. « Bon, dit M. Tappertit, l'examinant avec attention, tandis qu'un silence absolu régnait autour de lui, car il avait fabriqué des clés secrètes pour toute la société et il devait peut-être quelque chose de son influence à ce petit service trivial. Les hommes de génie ne sont pas eux-mêmes à l'abri de ces considérations mesquines. » « Venez ici, l'ami, ce sera bientôt fait. » En parlant de la sorte, d'un signe, il prit à part le nouveau chevalier et, mettant le modèle dans sa poche, il l'invita à se promener avec lui. « Ainsi donc, dit-il, après quelques tours en long et en large, vous aimez la fille de votre maître ?»« Je l'aime, dit l'apprenti, en tout bien, tout honneur. Pas de bêtises, vous savez !» « Avez-vous, répliqua M. Tappertit en le saisissant par le poignet et lui lançant un regard qui aurait exprimé la plus mortelle malveillance si un hoquet accidentel n'était venu jeter un peu de trouble dans ce regard, avez-vous un rival ?»« Non, pas que je sache, répliqua l'apprenti. « Si vous en aviez un maintenant, dit M. Tappertit, que feriez-vous, hein ?» L'apprenti lança un regard farouche et serra ses poings. « C'est assez, dit vivement M. Tappertit, nous nous comprenons. On nous observe, merci. » En disant cela, il lui fit signe de s'éloigner, puis, appelant le long camarade et le prenant à part, après lui avoir fait seul quelques tours précipités, il lui ordonna d'écrire immédiatement et d'afficher sur la muraille un avis proscrivant un certain Joseph Willett, connu en général sous le nom de Joe, de Chigwell, faisant défense au chevalier apprenti de lui prêter secours et assistance, d'entretenir des rapports avec lui et leur enjoignant sous peine d'excommunication de molester ledit Joseph, de le maltraiter, de lui faire du tort, de l'ennuyer, de lui chercher querelle, n'importe quand et n'importe où, où les uns et les autres pourraient faire sa rencontre. Cette mesure énergique ayant soulagé son esprit, il voulut bien s'approcher de la table joyeuse et, s'échauffant peu à peu, il daigna enfin présider et même charmer la compagnie avec une chanson. Ensuite, il s'éleva à un tel degré de complaisance qu'il consentit à régaler ses subalternes d'une danse de cornemuse. Il l'exécuta immédiatement au son d'un violon dont joua un virtuose de la société, et il l'exécuta d'une manière si brillante et avec une agilité si merveilleuse que les spectateurs ne pouvaient pas trouver assez d'enthousiasme pour manifester leur admiration. Quant à l'hôte, il protesta les larmes dans les yeux qu'il n'avait jamais senti le regret d'être aveugle comme à présent. Mais l'hôte, après s'être retiré, probablement pour pleurer en secret sur sa cécité, revint bientôt annoncer qu'il ne restait guère plus d'une heure avant que le jour parût et que tous les coqs de Barbicane avaient déjà commencé à chanter comme des perdus. À cette nouvelle,
Les chevaliers apprentis se levèrent en toute hâte et, se rangeant sur une seule ligne, défilèrent l'un après l'autre et se dispersèrent du pas le plus accéléré vers leur domicile respectif, laissant leur commandant passer le dernier par la grille.
« Bonne nuit, noble capitaine !» chuchota l'aveugle pendant qu'il tenait la porte ouverte pour le laisser passer. « Adieu, brave général !»«
Allez faire dodo, illustre commandant. Bonne chance, imbécile, vaniteux, fanfaron, tête vide, jambe de canard !»
Après avoir prononcé ces derniers mots d'adieu avec un sang-froid malhonnête, tandis qu'il écoutait s'éloigner le bruit des pas du capitaine et qu'il refermait la grille sur lui-même, il descendit les marches et, allumant du feu sous le petit chaudron, il se prépara sans aucune aide à son occupation du jour. Elle consistait à vendre au détail, à l'entrée de la cour d'au-dessus, des portions de soupe et de bouillon, un penny, et des puddings savoureux faits avec des rogatons tels que ceux qu'on pouvait acheter en bloc au plus vil prix dans la soirée à Fleet Market. Naturellement, pour le débit de sa marchandise, il comptait principalement sur ses connaissances personnelles, car la cour était une impasse qui ne recevait pas une grande variété de clients, et il ne semblait pas que beaucoup de monde choisît cet endroit de préférence pour venir y prendre l'air, ni pour y faire, par agrément, un tour de promenade.
Chapitre 9. Les chroniqueurs ont le privilège d'entrer où ils veulent, d'aller et venir par des trous de serrure, de chevaucher sur le vent, de surmonter dans leur essor de haut en bas, de bas en haut, tous les obstacles de distance, de temps et de lieu. Trois fois bénie soit cette dernière considération, puisqu'elle nous permet de suivre la dédaigneuse Mix jusque dans le sanctuaire de sa chambre et de jouir de sa douce compagnie durant les terribles veilles de la nuit. Mademoiselle Mix, après avoir défait sa maîtresse, comme elle s'exprimait, ce qui signifie l'avoir aidée à se déshabiller, et l'avoir vue bien confortablement au lit dans la chambre de derrière du premier étage, se retira dans son propre appartement à l'étage de la corniche. Nonobstant sa déclaration en présence du serrurier, elle n'avait pas envie de dormir. Aussi, mettant la lumière sur la table et écartant le rideau de la petite fenêtre, elle contempla d'un air pensif le vaste ciel nocturne. Peut-être se demandait-elle avec étonnement quelle étoile était destinée à lui servir de séjour lorsqu'elle aurait parcouru sa petite carrière ici-bas. Peut-être cherchait-elle à pénétrer laquelle de ces sphères brillantes pouvait être le globe natal de M. Tappertit. Peut-être s'émerveillait-elle qu'elle s'abaissasse à regarder cette perfide créature, l'homme, sans en avoir mal au cœur, sans en devenir tout à coup verte comme les lampes des pharmaciens. Peut-être ne pensait-elle à aucune chose en particulier. Quel que fût l'objet de ses réflexions, elle resta assise là, jusqu'à ce que son attention, éveillée par tout ce qui se rattachait à l'insinuant apprenti, fût attirée par un bruit dans la chambre voisine de sa propre chambre, dans sa chambre à lui, la chambre où il dormait et rêvait, ou quelquefois peut-être il rêvait d'elle. Qu'il ne rêva pas maintenant, à moins qu'il ne se promenât tout endormi, rien de plus clair, car d'instant en instant, il venait de là une espèce de frottement, comme s'il était occupé à polir le mur blanchi à la chaux, puis sa porte cria doucement, puis il y eut une faible indication de sa marche furtive sur le palier. Notant cette dernière circonstance, Mademoiselle Mix pâlit et frissonna, comme si elle se méfiait de ses intentions. Et plus d'une fois, elle s'écria en retenant son souffle « Oh, c'est un effet de la Providence que j'ai mis le verrou !» En cela, elle se trompait. C'est sans doute la frayeur qui lui faisait confondre en idée un verrou et son usage, car il était bien vrai qu'il y avait un verrou à la porte, mais il n'était pas mis en dedans. Quoi qu'il en soit, le sens de l'ouïe ayant chez Mademoiselle Mix un tranchant aussi effilé que son caractère et se trouvant de la même nature hargneuse et soupçonneuse, l'informa bientôt que le promeneur nocturne dépassait sa porte et paraissait avoir quelques buts tout à fait distincts d'elle-même, sans le moindre rapport avec sa personne. À cette découverte, elle fut plus effrayée que jamais et elle allait donner libre issue à ses cris de « au voleur, à l'assassin » qu'elle avait jusqu'ici comprimés,
quand elle s'avisa d'ouvrir doucement sa porte et de regarder pour savoir si ses craintes avaient quelque fondement solide et palpable. En conséquence, regardant dehors et étendant son cou au-dessus de la rampe, elle aperçut, à sa grande stupéfaction, M. Tappertit, complètement habillé, qui descendait à la dérobée l'escalier, une marche à la fois, avec ses souliers dans une de ses mains et une lampe dans l'autre. Elle le suivit des yeux et, descendant elle-même quelques marches pour profiter d'un angle propice, elle le vit passer la tête par la porte de la salle à manger, la retirer avec une grande promptitude et commencer immédiatement une retraite vers le haut de l'escalier avec toute la célérité possible. « Il y a là un mystère, dit la demoiselle lorsqu'elle fut rentrée dans sa propre chambre, saine et sauve, mais ne pouvant plus respirer. Bonté divine, il y a là un mystère. » La perspective de surprendre n'importe quel secret de n'importe qui aurait suffi pour tenir éveillée Mademoiselle Miggs, même sous l'influence de la jusquiame. Bientôt, elle entendit encore le pas de l'apprenti. D'ailleurs, elle aurait entendu celui d'une plume automate qui serait descendue sur la pointe du pied. Puis elle se glissa hors de sa chambre, ainsi qu'auparavant, et aperçut de nouveau le fuyard qui revenait à la charge. Il regarda encore avec précaution à la porte de la salle à manger, mais cette fois, au lieu de battre en retraite, il entra et disparut. Miggs était de retour dans sa chambre et avait mis la tête à la fenêtre, en moins de temps qu'il n'en faut à un homme d'âge pour cligner de l'œil et se remettre. L'apprenti sortit par la porte de la rue, la ferma soigneusement derrière lui, s'en assura en y appuyant le genou et partit avec une allure de fanfaron en mettant quelque chose dans sa poche tandis qu'il s'éloignait. À ce spectacle, Miggs cria de rechef « Bonté divine, puis juste ciel, puis Seigneur protégez-moi », puis, prenant une chandelle en main, elle descendit l'escalier comme il l'avait fait. Arrivée à l'atelier, elle vit la lampe allumée sur la forge et chaque chose comme Sim l'avait laissée. Eh, mais je veux n'avoir qu'un enterrement à pied après ma mort au lieu d'un convoi décent avec un corbillard à plumes, si ce moutard ne s'est point fabriqué une clé particulière, cria Miggs. Oh, le petit scélérat! Elle n'arriva pas à cette conclusion sans réfléchir, sans beaucoup regarder, beaucoup examiner. Ses souvenirs l'y aidèrent aussi. Elle se rappela que, dans diverses occasions, étant tombée tout à coup sur le dos de l'apprenti, elle l'avait trouvé occupé d'un travail mystérieux. De peur que le nom de moutard donné par Mademoiselle Miggs à celui sur qui elle daignait abaisser les yeux n'éveille de l'étonnement dans quelque esprit, il est bon de faire observer qu'elle considérait tous les mâles bipèdes au-dessous de 30 ans comme de simples marmots, de vrais poupons, phénomène assez commun chez les dames du caractère de Mademoiselle Miggs et qu'en général on trouve associé à ses indomptables et sauvages vertus. Mademoiselle Miggs délibéra en elle-même durant quelques minutes, les yeux fixés tout le temps sur la porte de l'atelier, comme si ses yeux et ses pensées ne pouvaient s'en détacher. Puis, prenant dans un fauteuil une feuille de papier, elle en fit un long et mince tortillon. Après avoir rempli cet instrument d'une quantité de poussière du menu charbon de la forge, elle s'approcha de la porte et, mettant un genou à terre, elle souffla avec dextérité dans le trou de la serrure autant de cette fine poudre qu'il en pouvait contenir. Lorsqu'elle l'eut bourré jusqu'au bord d'une façon très industrieuse et très habile, elle remonta l'escalier à la sourdine et, arrivée dans sa chambre, elle gloussa de rire. Là, cria Miggs en se frottant les mains, nous verrons maintenant si vous ne vous trouvez pas bien heureux de faire quelque attention à moi, monsieur. Maintenant, vous aurez des yeux pour quelque autre, j'imagine, que Mademoiselle Dolly, avec sa vilaine figure de chat bouffi, comme je n'en ai jamais vu, moi. En proférant cette critique, elle lança un coup d'œil approbateur à son petit miroir, comme une personne qui dirait « Je rends grâce à mon étoile qu'on ne puisse pas en dire autant de moi ». Et certainement des choses impossibles, car le style de beauté de Mademoiselle Miggs appartenait à ce genre que M. Tappertit lui-même avait assez bien qualifié dans l'intimité du titre de « décharné ». « Je ne me coucherai pas cette nuit, » dit Miggs en s'enveloppant d'un châle, tirant une couple de chaises près de la fenêtre, s'enfonçant sur l'une et mettant ses pieds sur l'autre, « que vous ne soyez revenu au logis, mon garçon. »« Je ne me coucherai pas, » dit Miggs avec résolution. « Oh non, pas même pour 45 guinées. »
Là-dessus, avec une expression de figure où un grand nombre d'ingrédients contraires, tels que la méchanceté, la ruse, la malice, le triomphe, la confiance dans le succès de sa patience, étaient tous mêlés ensemble en une sorte de punch physionomique, Mademoiselle Miggs s'arrangea pour attendre et pour écouter, semblable à quelque belle ogresse qui vient de dresser un piège sur le chemin et guette un jeune voyageur bien dodu pour en manger une tranche. Elle resta assise là, dans une parfaite tranquillité, toute la nuit. Enfin, juste à la pointe du jour, il y eut un bruit de pas dans la rue, et bientôt, elle put voir M. Tappertit s'arrêter devant la porte. Puis, elle put découvrir qu'il essayait sa clé, qu'il soufflait dedans, il la tapait contre le poteau le plus proche pour faire tomber la poussière, qu'il allait l'examiner sous un réverbère, qu'il fourrait des petits morceaux de bois dans la serrure pour la nettoyer, qu'il regardait dans le trou de la serrure d'abord avec un œil et ensuite avec l'autre, qu'il essayait la clé une seconde fois, qu'elle ne pouvait plus tourner, et qu'il puisait qu'elle ne pouvait plus ressortir, qu'il la courbait, qu'elle était alors moins disposée à ressortir qu'auparavant, qu'il la tordait avec une grande force et la tirait d'une main vigoureuse, et qu'alors elle ressortait si soudainement qu'il manquait de tomber à la renverse, qu'il donnait un coup de pied à la porte, qu'il la secouait, qu'il finissait par se frapper le front et s'asseoir sur la marche d'un air désespéré. Quand la crise fut arrivée à son paroxysme, Mademoiselle Miggs, affectant d'être épuisée par la terreur et de se cramponner à la lèche de la fenêtre pour se soutenir, fit voir au dehors son bonnet de nuit et demanda d'une voix faible qui était là. Monsieur Tappertit cria « Chut !» et reculant de quelques pas dans la rue, l'exhorta dans une pantomime frénétique au secret et au silence. « Un mot, un seul, » dit Miggs, « y a-t-il des voleurs ?»« Non, 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 » cria M. Tappertit. Alors, dit Miggs d'une voix plus faible qu'avant, « Est-ce le feu ? Où est-il, monsieur ? Près de cette chambre, je le parie. Je n'ai rien sur la conscience, monsieur, et j'aime mieux mourir que de descendre par une échelle. Tout ce que je désire, vu l'amour que je porte à ma sœur qui est mariée, cour du Lion d'Or, numéro 27, deuxième cordon de sonnette, sur le montant à droite. Miggs, cria M. Tappertit, ne me reconnaissez-vous pas ? Sim, vous savez, Sim. Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Cria Miggs en serrant ses mains. Court-il quelque danger ? Est-il au milieu des flammes ardentes ? Ah, ciel ! « Mais je suis ici, » répliqua M. Tappertit en se frappant la poitrine. « Ne me voyez-vous pas ? Êtes-vous folle, Miggs ?»« Quoi ? C'est vous ? » cria Miggs sans faire attention à ce compliment. « Eh, mais oui, c'est lui-même. Bonté divine ! Qu'est-ce que cela signifie, s'il vous plaît ? Mam, c'est... »« Non, non !» cria M. Tappertit qui se tenait sur la pointe des pieds comme s'il espérait par ce moyen pouvoir se rapprocher assez pour fermer de là la bouche à Miggs dans son galta. « Ne dites rien. Je suis sorti sans permission. » Et il y a je ne sais quoi à la serrure. Descendez, venez ouvrir la fenêtre de la boutique afin que je puisse entrer par là. Oh, je n'ose pas, Simon, cria Miggs, car c'était ainsi qu'elle prononçait son nom de baptême. Je n'ose pas en vérité. Vous savez aussi bien que n'importe qui combien je suis scrupuleuse. Et descendre en pleine nuit lorsque la maison est plongée dans le sommeil et voilée de ténèbres. Ici elle s'arrêta et frissonna, car sa pudeur en attrapait un rhume rien que d'y penser. « Mais, Miggs !» cria M. Tappertit en allant sous le réverbère pour qu'elle pût voir ses yeux. « Ma Miggs, chérie !» Miggs jeta un petit cri perçant. « Que j'aime tant et à laquelle je ne peux m'empêcher de penser toujours !» Et il est impossible de décrire l'usage qu'il fit de ses yeux en disant ceci. « Descendez pour l'amour de moi ! Descendez !» « Oh, Simone !» cria Miggs, « c'est pire que tout le reste. Je sais que si je descends, vous irez plus loin et... » « Et quoi, précieuse amie ?» dit M. Tappertit. « Et vous essayerez, » dit Miggs d'un air agacé, « de m'embrasser ou quelque autre horreur. Vous l'essayerez, je le sais. »« Oh, je vous jure que non, » dit Tappertit avec une remarquable vivacité. « Sur mon âme, je n'en ferai rien. Il s'en va à grand jour et le veilleur de nuit est en train de se réveiller. Angélique Miggs, si vous voulez bien descendre et m'introduire, je vous promets sincèrement et loyalement que je serai bien sage. » Mademoiselle Miggs, dont le bon petit cœur fut touché, n'attendit point le serment, sachant combien la tentation était forte et craignant que ce ne fût pour lui l'occasion d'un parjure, mais elle sauta en bas de l'escalier lestement et de ses belles mains, elle rabattit la rude fermeture de la fenêtre de l'atelier. Après avoir aidé l'apprenti à entrer, elle articula d'une voix faible les mots
Simon est sauvé. Et cédant à sa nature féminine, elle perdit immédiatement connaissance.
Ah, je savais que je la fascinerais, dit Sim, un peu embarrassé par cet incident. J'étais sûr, naturellement, que ça finirait comme ça, mais il n'y avait pas d'autre parti à prendre. Si je ne lui eusse pas lancé mon œillade, elle ne serait pas descendue. Voyons, soutenez-moi une minute, Miggs. Oh, quelle glissante personne que cette fille, il n'y a pas moyen de la tenir commodément. Soutenez-vous une minute, Miggs, soutenez-vous donc.
Miggs restant néanmoins sourde à toutes les supplications, Monsieur Tappertit l'appuya contre la muraille, comme on ferait d'une canne ou d'un parapluie, jusqu'à ce qu'il eût bien barricadé la fenêtre. Alors il la prit de nouveau dans ses bras, puis par de petites étapes et avec une grande difficulté qui tenait surtout à ce qu'elle était d'une haute taille et lui d'une taille exiguë, peut-être aussi à cette particularité dans sa conformation physique qu'il avait déjà qualifiée, il finit par la porter au plus haut de l'escalier, la planta encore comme un parapluie ou une canne juste devant la porte de sa chambre et la laissa tranquille. « Libre à lui d'être froid autant qu'il le voudra, » dit Miggs, qui revint à elle dès qu'elle se vit seule, « mais je suis dans sa confidence et il ne peut pas m'en empêcher. Non, non, fut-il 20 Simons à lui tout seul. »